Vous rappelez-vous de votre baptême ou de votre conversion? J'imagine que pour ceux qui ont vécu cette expérience, le souvenir doit être bien présent à l'esprit. La journée, comment ça s'est déroulé, qui il y avait, le témoignage que l'on a donné. C'est le jour pendant lequel, finalement, on veut dire à tout le monde qu'on a fait ce choix de suivre le Seigneur. C'est le jour où on montre que notre vie a changé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un baptême un peu atypique, celui de tout un peuple. Un baptême qui a été fort en émotion, entre la peur devant la mort, un lâcher-prise total, et puis au final, une victoire éclatante. Et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est peut-être un petit peu aussi le processus par lequel on est passé, peut-être un peu moins intense que ce peuple-là, je ne sais pas. Et on verra que les choses peut-être ne se sont pas passées exactement comme nous l'avons vécu, dans le même ordre, mais peu importe, cela ne va rien changer à l'essence du message. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est que cet événement qui s'est passé il y a des milliers d'années puisse nous faire du bien aujourd'hui encore, puisse nous permettre de mieux comprendre la réalité que nous avons vécue quand nous sommes venus au Seigneur. Ce n'est pas le baptême en soi qui nous a changé, mais c'était la conversion juste avant ce baptême. Ce baptême a juste été l'exemple, le modèle, la manifestation de ce qu'on a fait, le choix que l'on a fait. Alors vous l'aurez deviné, ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes dans cette série d'exodes où le peuple vient de sortir de l'Égypte. Il a été libéré, le pharaon l'a laissé partir. Et il va y avoir un événement assez particulier qu'ils vont vivre. Ce que j'ai retenu du message de Michael la semaine dernière et qui m'a beaucoup interpellée, c'est de voir combien, bien sûr, le peuple a été libéré et le peuple a changé de propriétaire. Le peuple n'est plus aux Égyptiens. Il n'est plus sous la domination, mais en fuyant cette domination, le peuple a changé de propriétaire. Il appartient désormais à Dieu. Et dans les événements qui vont suivre, on va voir que cela change. Ce que cela va changer concrètement pour les Israélites. Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir maintenant à Dieu? Et ces événements vécus par les Israélites vont être fondamentaux, vont être cruciaux dans l'évolution que Dieu veut donner à son peuple. D'ailleurs, le livre d'Exode est considéré comme un des livres fondateurs qui va poser les bases de la vie du peuple avec son Dieu. Et puis, juste petit anecdotiquement, quand j'ai ouvert ma Bible pour regarder le livre, le passage que l'on va prendre, donc... Hop, je ne pourrais pas lire là-dedans malheureusement. Ce qui m'a juste frappé, c'est de voir que c'était tout au début de la Bible. Un passage qui est vraiment connu, mais de se dire, on a l'impression qu'il s'est déjà passé plein de choses pour le peuple d'Israël, alors que c'est que le début de la Bible. Quelque chose de fondateur. Alors, voilà, quand on vient au Seigneur, dans notre jargon, on parle de nouvelle vie, de nouvelle naissance. Le moment où on choisit vraiment que de servir le Seigneur, où on va se convertir. Et le baptême, c'est le témoignage public de ce choix que l'on a fait, de ce qui s'est passé en nous. Et pour le peuple d'Israël, cette nouvelle vie qu'il s'apprête de vivre va commencer par la traversée de la mer des joncs. D'ailleurs, Paul va reprendre cette image en 1 Corinthiens 10, verset 11. Je viens juste de m'en rendre compte que je n'ai pas donné les textes aux techniciens. Pardon, Abby. Voilà, pas tout de suite. Tu auras le temps de chercher dans Exode 14 plutôt. Mais là, 1 Corinthiens, ça va. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous eu, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Voilà, Paul reprend déjà cette image du baptême. Ça sera dans la version du semeur. Alors comment cet épisode ne peut-il pas faire écho à ce que nous avons vécu, à notre propre expérience? En tout cas, j'y vois beaucoup de similitudes. Pour commencer, donc, je vous propose de lire Exode, le chapitre 13. On va revenir juste un tout petit peu en avant, les versets 17 et 18. Et puis après, on enchaînera avec... le chapitre 14, on ne lira pas tout, hein. À chaque fois on a deux chapitres, mais prendre seulement quelques passages pour rester dans le fil de l'histoire. Chapitre 13, verset 17. « quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins. Bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Si on continue au verset 19, Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement abjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Quelle espérance! Les Israélites partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. On arrête là la lecture pour le moment. Tout au long de ces versets, nous verrons que la colonne de nuée ou de feu est présente. Elle est près du peuple. Elle se déplace en fonction des besoins, devant, derrière, entre eux et les Égyptiens. Et en fait, c'est la première fois que cette colonne est présente. Cette nuée, elle parle de la présence de Dieu. Dieu est présent à côté d'eux. Il est présent à côté du peuple d'Israël et ils peuvent le voir. Il les accompagne, il les précède, il les protège. Et j'aime aussi ces détails qui ont leur importance quand Dieu précise qu'il va leur faire un détour parce qu'il se dit que ce peuple n'est pas encore prêt à assumer la mission qui va leur être donnée. Il y a besoin de faire un petit détour, enfin un grand détour pour le coup. Il ne va pas les conduire par le chemin le plus court. Ça les ferait arriver trop tôt à leur destination. Et pour cause, ils viennent de rencontrer Dieu, ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas tant que ça, finalement. Alors bien sûr, il s'agit du Dieu de leurs ancêtres. Ils ont pu le voir à l'œuvre avec les 10 plaies pendant qu'ils étaient encore en Égypte, avec leur sortie fracassante de ce pays. Mais finalement, qui est-il vraiment? Ils ont besoin d'apprendre à le connaître, à savoir qui il est. Et ce qu'ils vont s'apprêter à vivre va leur donner un bon exemple, un bon aperçu de ce que Dieu est capable d'accomplir. Alors, dans les versets suivants, on ne va pas le lire, mais simplement, je vais vous le résumer. Nous voyons que l'Éternel va transmettre ses instructions à Moïse. Il va leur demander de venir camper à un endroit bien précis, au bord de la mer. Il a choisi l'endroit exact où il souhaite que son peuple s'installe. Le Pharaon va être informé que les Israélites, au lieu d'aller adorer Dieu, finalement, ils ont peut-être pris la fuite. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il va comprendre et il va changer d'avis. Il va penser que les Israélites se sont perdus dans le désert et il va partir pour les ramener. Il mobilise quand même 600 de ses meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Et sur chaque char, il y avait 3 hommes à son bord. Donc l'armée n'était pas négligeable. Il les retrouve à une trentaine de kilomètres de Ramsès, là où ils sont partis, bloqués devant la mer. Alors les Israélites, en voyant cette grosse armée arriver devant eux, une grande peur les a saisis et ils poussèrent de grands cris vers l'Éternel. C'est ce qu'on voit au verset 10. Il faut dire que le peuple a se retrouvé dans une impasse. Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, les Égyptiens qui arrivaient. Et même si le texte fait mention de quelques noms, il est difficile aujourd'hui de situer exactement à quel endroit les Israélites se sont retrouvés. Il y aurait 2 hypothèses. Soit à savoir donc la mer Rouge, avec entre les lacs Amer et la mer de Suez. J'ai pas pris de carte, mais peu importe. Ou alors vers la mer des roseaux. Quoi qu'il en soit, ils sont bloqués. Au sud, ils ont le désert, donc un espace pas très accueillant. Comme on le disait, à l'est, la mer. À l'ouest, probablement les montagnes, en fonction de l'endroit où ils sont. Et au nord, c'est les Égyptiens qui arrivent. Michael nous a rappelé qu'ils étaient 2 millions à sortir du pays d'Égypte. 2 millions. Ce n'est pas un petit peuple. Ce n'est pas un peuple qui peut s'enfuir comme ça en un claquement de doigts. Et finalement, pourquoi Dieu leur a demandé de venir camper à cet endroit-là ? Ils lui ont obéi ? Il aurait pu anticiper ce qui allait arriver ? Ben justement, c'est ce qu'il a fait. Mais les Israélites ne peuvent pas encore s'imaginer ce que Dieu va faire. Alors ils se retournent contre Moïse, qui est avec eux, et ils lui reprochent de les avoir emmenés jusque-là. Ils auraient préféré rester en Égypte, malgré leurs conditions de vie difficiles. On oublie vite ce qu'on a laissé derrière nous. Et on l'idéalise peut-être un peu. En tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ils sont là, une armée à leur trousse, et ils ne s'imaginent pas ce qu'ils vont pouvoir vivre. Dieu orchestre tout. Il met tout en scène et il va leur montrer qu'il est ce maître absolu. Mais avant cela, il faut qu'ils passent par une prise de conscience. Ils ne peuvent rien faire seuls. Le peuple de Dieu est dans une impasse. Ils ne peuvent qu'admettre leur incapacité à se sauver par eux-mêmes. La seule solution qu'ils ont, c'est de s'en remettre à Dieu. Ils vont devoir lâcher prise. Ils vont devoir lui faire confiance. Seul lui a la solution. Seul lui va pouvoir les sauver. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu le même constat que l'on fait quand on se convertit face à la mort, au péché qui est devant nous ? Quelle solution nous avons ? On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Il fallait trouver une autre issue. On l'a trouvée. C'est Jésus. Alors, si on reprend notre lecture, au chapitre 14, au verset 13, donc une fois que les Israélites sont venus et se sont défoulés sur Moïse, Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous saurez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Et le verset 14, qui fait du bien celui-ci, « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Quelle foi ! Waouh ! Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Restez tranquille, Dieu va combattre pour vous. Quel message puissant ! Et là aussi, on voit qu'ils n'ont pas à combattre. Dieu ne leur demande pas de combattre, il leur demande simplement d'être spectateurs. Il leur demande simplement de voir la victoire qui va arriver. C'est assez confortable finalement comme position, être simplement spectateur de ce que Dieu va faire pour eux. Enfin, assez confortable, ils ont quand même une armée derrière eux. Et puis l'Éternel va donner la suite des instructions à Moïse, il va lui dévoiler son plan. Le peuple doit se mettre en route, Moïse va lever le bâton, et puis ça va fendre la mer en deux. Et les Israélites vont pouvoir passer à pied sec, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Qu'ils n'avaient pas vu jusque-là, qu'ils n'avaient pas pu voir jusque-là. Et d'ailleurs, Dieu poursuit même en disant quel sort il prévoit pour les Israélites, pour les Égyptiens, pardon. Et sans grande surprise, les choses qu'il a dites se sont faites. Il a fait souffler un vent violent pendant toute la nuit qui a refoulé la mer et qui a laissé un passage suffisamment large pour que tout le peuple puisse passer pendant la nuit, à pied sec. Alors, cela peut s'expliquer quand un vent fort souffle de manière continue au bord d'un étang, d'un lac ou d'un océan, il pousse l'eau perpendiculairement et l'eau s'éloigne du bord. Et c'est probablement le phénomène qui s'est passé. En anglais, ils appellent ça le wind set down. Alors, même si on peut l'expliquer, cela n'exclut en rien le miracle que Dieu a fait. C'est un phénomène que Dieu a utilisé, mais il a permis à son peuple de traverser à pied sec. Même si ce phénomène est là et peut s'expliquer, il est extraordinaire parce que Dieu est souverain. Il a orchestré, il a fait au moment où il a voulu. Il a ouvert cette mer le temps qu'il fallait, la largeur qu'il fallait. C'est lui qui a dirigé le vent, c'est lui-même. C'est dit un peu plus loin dans le cantique, il s'est servi de son souffle. Le souffle de ses narines a suffi. C'est les Israélites qui ont repris cette expression. Simplement pour que la mer s'ouvre. Il a autorité sur absolument tous les éléments. Et il s'en sert pour arriver à ses fins. On va reprendre les versets 28 et 31. chapitre 14, toujours au verset 28 et 31. Après tout cela, on a un résumé de ce qui s'est passé. Le verset 28, les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. Et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Waouh, comment ne pas lui rendre gloire après un spectacle aussi grandiose ? C'est qu'en voyant Dieu agir avec toute cette puissance, le peuple commence à craindre l'Éternel. Et derrière révérer l'Éternel ou craindre l'Éternel, il y a une expression plus conventionnelle qui veut dire la vraie foi. C'est une expression qui désigne habituellement la vénération, la profonde révérence, l'extrême respect que l'on peut avoir, que l'on doit à Dieu en tant que Dieu tout simplement. Cela entraîne de la reconnaissance de son autorité. Et l'obéissance, finalement, à ses commandements. Finalement, c'est une vie avec le Seigneur, tout simplement. C'est le gage d'une vie droite, et c'est ce que le peuple d'Israël commence à faire. Le peuple crut en lui, il eut confiance en Dieu, il a mis sa foi en lui. C'est ce même mot qui a été utilisé, la même expression qui a été employée en Genèse 15 quand il est dit qu'Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. C'est la conversion. C'est le prérequis pour être sauvé, croire en lui et le craindre. Et après cette traversée de la mer, le peuple d'Israël choisit de révérer l'Éternel et de croire en lui. D'ailleurs, ce qu'ils vont faire juste après montre qu'il y a eu ce changement ce cœur s'est ouvert au Seigneur. Ils vont entonner un chant pour l'Éternel, ils vont entonner un hymne qui rend toute la gloire à Dieu. Dieu, d'ailleurs, l'a précisé plusieurs fois dans ce passage. Il a prévu tout cela pour que tous, sans exception, voient sa gloire. Il le dit une première fois, au verset 4, « Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, ses chars et de ses cavaliers. » Cette même affirmation, elle est encore reprise au verset 17. Et puis, au verset 18, il complète avec « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié. » Même les Égyptiens reconnaîtront qu'il est l'Éternel. Et effectivement, on voit que les Égyptiens vont le reconnaître au verset 25 quand ils diront « Fuyons devant l'Israël. » Car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Ils ne disent pas contre nous, hein. Ils combattent pour eux. Voilà, c'est eux-mêmes qui parlent en disant « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre nous. » Dieu est pleinement glorifié au moment de la traversée de la mer. Les Égyptiens auront le temps de reconnaître qu'il est Dieu avant de mourir. Mais ça ne suffit pas pour être sauvés. Les Israélites, eux, ils l'ont reconnu, mais ils ont aussi cru en lui. Cela fait toute la différence. Dieu va donc bien se servir de cette armée pour être glorifié, pour montrer toute sa puissance. Être glorifié, c'est quoi ? C'est être porté au nu, c'est être vénéré, être adoré. Tous ces termes, ils parlent, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une reconnaissance de qui est Dieu. La reconnaissance de quelque chose qui a été fait, la reconnaissance des qualités de la personne elle-même, la reconnaissance de Dieu. Qui est Dieu ? Dieu va puissamment agir pour sortir le peuple de cette impasse et il va le délivrer de la mort. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va les délivrer de la mort en faisant mourir tous ceux qui étaient derrière lui. En faisant mourir tous ceux qui voulaient faire du mal à son peuple. Ceux qui étaient contre lui et ceux qui n'ont pas cru en lui. Et comme on l'a lu tout à l'heure au verset 30, on voit que les Égyptiens ont vu les Israélites ont vu le corps des Égyptiens au bord de la mer. Ils ont pu voir la mort qui était là, que Dieu a tué ceux qui leur voulaient du mal. Ceux qui les pourchassaient ne sont plus là. Et je me suis dit, ça a dû faire drôle, toute cette agitation passée à travers cette mer en se disant, on est poursuivi, comment ça va se passer? Et puis ils arrivent de l'autre côté, mais les Égyptiens sont toujours derrière. Eux aussi traversent la mer, eux aussi vont arriver de l'autre côté. Et puis d'un seul coup, plus rien. Un silence de mort. Un silence de mort, ouais. Ils sont plus là. Il n'y a plus de quoi avoir peur. Ils peuvent même pas trouver une autre route ou trouver une autre alternative. Ils ne sont plus là. Les Israélites, eux, ils peuvent continuer leur route tranquille. Ceux qui voulaient leur mort ne sont plus. Et finalement, c'est aussi ce que nous vivons quand nous venons à Christ. Quand nous reconnaissons qu'il a tout réglé pour nous, qu'il a tout réglé à notre place, cela, ça nous rend libres. On n'est plus sous l'emprise du mal. On appartient à Dieu. On est pleinement libre en lui. Ce combat, lui, il a déjà mené à la croix pour nous. Les Égyptiens qui ont été engloutis dans la mer, finalement, c'est une image de la mort qui a été engloutie par le Seigneur. Et lui, il a fait une bonne fois pour toutes. On est vraiment pleinement libre en lui. Comme il a fait passer ce peuple d'Israël à travers la mer, notre baptême, finalement, c'est aussi cette image-là. On est plongé dans cette eau et on en ressort. C'est le fait de ressortir qui montre cette victoire que Dieu il a sur la mort. Ça témoigne de ce passage extraordinaire qu'on vit avec le Seigneur. Nous aussi, on a traversé la mer. De manière imagée, bien sûr. Et réaliser cela, ça nous permet de nous réjouir comme les Israélites. Ils ont entonné un chant pour le Seigneur. C'est le début du chapitre 20, du chapitre 15, le cantique de Moïse et des Israélites. On va simplement lire le premier verset. Chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. À travers ce cantique, il y a bien des vérités qui sont mentionnées. Je vous encourage à le lire. Ce qui nous est mentionné, c'est que Dieu est souverain. Il est notre salut. Il est éternel. Il est fort. Il déchaîne sa colère. Il agit sur les éléments. Il agit puissamment. Il inspire la terreur aux peuples qui ne sont pas à lui. Et puis, il y a ce cantique qui commence et il termine par la même phrase. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. C'est à chaque fois, et c'est plusieurs fois, c'est repris. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Il n'a pas simplement fait traverser le peuple d'Israël, mais il a aussi anéanti la mort. Tout au long de ce cantique, on voit la bienveillance de Dieu pour son peuple. Il met tout en œuvre pour amener ce peuple là où il le souhaite. Il parle de sa demeure sainte. De l'autre côté, il va anéantir ce qui ne lui appartient pas. Mais il prend soin de son peuple. Et puis j'aimerais terminer en lisant la fin du cantique au chapitre 16, au verset 16, pardon. Donc le verset 16 jusqu'à la fin du cantique, jusqu'au 21. Donc chapitre 15, verset 16. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés. Jusqu'à ce qu'est passé ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce qu'est passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure. Ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel règnera à perpétuité, car les chevaux du Pharaon avec ses chars Et ceux qui les montaient se sont engagés dans la mer, et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau, tandis que les Israélites ont traversé la mer à sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonna en réponse aux Israélites, « Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. » Ce baptême atypique. La peur face à la mort a amené les Israélites à devoir faire confiance à Dieu, à devoir lâcher prise et à devoir s'engager avec lui. Tout le peuple a changé de propriétaire. Et nous avons fait de même quand nous sommes donnés au Seigneur. C'est ce même Dieu auquel nous appartenons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et le mal a été anéanti. C'est l'Éternel qui a fait mourir ceux qui n'étaient pas à lui. Et pareil pour notre conversion, c'est la mort du mal sur nous. Nous ne sommes plus liés à ce mal-là. Nous sommes libres. Libres en Christ. Au travers de ce qu'a vécu ce peuple d'Israël, nous pouvons faire le parallèle finalement vraiment avec notre vie, notre engagement qui a été pris avec le Seigneur. Il a anéanti tout ce qui pouvait nous anéantir. Il n'y a plus d'ailleurs de retour en arrière possible quand on s'imagine ce peuple d'Israël qui a traversé la mer. Est-ce qu'ils se sont à nouveau dit « on aurait dû rester en Égypte » Non, là, c'était plus possible. La mer s'est refermée, le passage n'était plus là. Et pour nous, c'est pareil, nous avons déjà été libérés dans le Seigneur. Notre vie ancienne n'est... Voilà, il n'y a plus d'envie d'y retourner. Et peut-être même si nos actions aujourd'hui, ben voilà, le péché est toujours là, c'est le... Ben voilà, on vit déjà cette liberté dans le Seigneur, mais on est encore dans ce monde. Mais ça donne encore une espérance tellement belle de se dire là-haut. Vraiment, tout sera anéanti. C'est pas juste qu'on ne sera plus esclave, c'est que ça n'existera plus. On est libre. Alors, le Seigneur nous voit libre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, il nous voit libre. Que de nos propres yeux, on puisse également le voir. Nous voir libre en lui. Véritablement et pleinement libre. Je vais terminer par la prière. Seigneur, comment ne pas te louer face à tant de puissance, face à tant de... Tout ce que tu as mis en œuvre, Seigneur, pour face à cette victoire éclatante du peuple d'Israël, de ton peuple que tu t'es acquis et que tu as sauvé de la main de ces Égyptiens, que tu as sauvé pleinement, entièrement. Et combien il est bon aujourd'hui de se rappeler que tu as fait la même chose pour nous à la croix, qu'aujourd'hui on est aussi pleinement libre en toi, Seigneur, qu'on t'appartient tout simplement. Et on appartient à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu extraordinaire, à ce Dieu qui a toute autorité absolument sur tout. Merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Que toute la gloire vraiment te revienne. Amen.